Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. À 18h20, je recevrai le président de Century 21. Le marché de l'immobilier flambe et bat son record absolu de vente. La campagne plébiscitée, la capitale boudée. À partir de 18h30, avec les grandes voix d'Europe 1, on reviendra évidemment sur ce drame de La Chapelle-sur-Erdre. Cette policière municipale blessée par un homme dont la radicalisation avait été détectée en prison. L'homme a été abattu, il a également blessé deux gendarmes. Drame qui intervient en plein Beauvau de la sécurité. Il y a un quart de siècle, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, annonçait la fin du service militaire obligatoire et avec lui, la fin d'un passage obligé par la caserne pour tous les jeunes Français. 25 ans plus tard, certains aimeraient bien le voir rétabli. Est-ce envisageable? Et si oui, sous quelle forme? On en parlera avec mes invités à partir de 19h20 dans votre grand débat du Club des idées. Mais avant cela, l'info avec le journal présenté ce soir par Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Il est 18h, merci à vous d'écouter Europe 1.
Une femme qui est dévouée à son métier. C'est une femme qui fait partie de La Chapelle-sur-Erdre, qui est toujours là pour nous. Elle vient nous dire bonjour tous les matins. Elle est toujours auprès de nous pour la commune. Un service, elle est là.
À la stupéfaction près de Nantes, une policière a été poignardée ce matin. Elle se trouve dans un état grave, mais ses jours ne sont pas en danger. Le suspect, un homme radicalisé, blessé lors de son interpellation, est décédé.
Le feu vert de l'Agence européenne du médicament, elle dit oui à la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants de 12-15 ans avec les doses conçues par Pfizer.
Grand oral pour le bac et grand stress. La nouvelle épreuve approche et pour déstresser les lycéens, une répétition générale s'est tenue aujourd'hui dans l'Académie de Lille. Notre correspondant y assister pour Europe 1.
Nike en dit plus sur sa rupture avec Neymar. C'est une suspicion d'agression sexuelle qui serait à l'origine du divorce entre la star brésilienne et l'équipementier.
Et puis le CAC 40 termine ce soir en hausse de 0,75% à 6484 points.
La météo, bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir Isabelle.
Tendance météo Valérie pour demain.
Eh bien, un samedi un petit peu instable du sud-ouest aux Alpes avec un ciel de plus en plus voilé, mais de très belles éclaircies sur le reste de la France et les températures qui sont enfin dans les normales de saison.
Et vous nous en direz plus, bien sûr, Valérie, dans 10 minutes. À tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un peu plus d'un mois après l'attaque de Rambouillet au cours de laquelle une policière avait été tuée dans l'enceinte même de son commissariat, la police est donc à nouveau sous le choc.
Oui, cette fois, c'est une policière municipale de La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes, qui a été visée. La fonctionnaire a été poignardée dans les locaux de la police municipale de la ville, Charles Guyard.
Oui, en effet, il était un peu plus de 10 heures ce matin lorsque la tranquillité habituelle de cette commune à 10 km au nord de Nantes a été ébranlée.
Et là, ça criait. Le haut, il est parti avant avec la voiture. Il a éclaté la voiture. Il a lâché la voiture. Il est couru.
La voiture évoquée par David, c'est une Golf grise immatriculée en Ille-et-Vilaine. Elle est restée ensuite plus de 3 heures, moteur tournant, abandonnée au milieu de la chaussée, le temps de laisser les équipes cynophiles s'assurer sans doute qu'elle n'était pas piégée. Restaurants et cafés sont priés de plier leurs terrasses. Les forces de l'ordre sont déployées aux entrées et sorties de la commune elle-même survolée par 3 hélicoptères. Une formation du GIGN arrive de la région parisienne en renfort. À la mi-journée, l'étau paraît se resserrer un peu plus au nord dans un quartier récent, là où se trouve la brigade de gendarmerie à laquelle l'individu comptait, semble-t-il, s'attaquer. Mathis est alors à son balcon.
Il devait être genre midi 50, un truc comme ça. Les gendarmes criaient qu'ils l'avaient trouvé. Ils disaient il est là. Ils nous ont dit de rentrer chez nous et de ne pas rester aux fenêtres parce qu'il pouvait y avoir des balles perdues.
De fait, l'individu vient d'être repéré. Avec l'arme de service qu'il a dérobée à la policière, il vise maintenant les militaires qui répliquent. Après un échange de coups de feu intense durant lequel 2 gendarmes ont été blessés, l'assaillant, un habitant de la commune, est neutralisé en quelques minutes. Atteint de plusieurs balles, il a succombé à ses blessures malgré les premiers soins prodigués sur place. De son côté, sa victime, Catel, une quinquagénaire, vit à un peu plus de 20 km de La Chapelle-sur-Erdre où avec son binôme Thierry, elle était particulièrement appréciée. Fabienne est patronne d'un bar juste à côté des locaux de la police municipale.
Tous les matins, il passait dans le bourg à pied. Il nous demandait si tout allait bien, il nous disait bonjour. Vraiment des gens gentils. Donc ça fait vraiment un choc à La Chapelle.
Un choc pour cette commune d'environ 20 000 habitants qui, peu à peu, retrouve désormais son calme.
Et Charles Guyard à La Chapelle-sur-Erdre pour Europe 1.
Et Gérald Darmanin s'est rendu sur place en milieu d'après-midi. Le ministre de l'Intérieur a salué la réactivité des policiers et donné des nouvelles rassurantes de la policière blessée.
La policière municipale a été courageuse, a su se protéger avec les moyens qu'elle avait. Et malgré ses blessures importantes, va survivre et c'est une très bonne chose. Comme nous pensons à ses collègues et à l'ensemble des policiers municipaux de France, dont je sais qu'ils sont les victimes aussi de cette violence contre nos forces de l'ordre. Je voudrais saluer la réactivité de M. le préfet de la Gendarmerie nationale, puisque 250 gendarmes ont été mobilisés pour retrouver l'agresseur qui a été retrouvé et qui a voulu manifestement s'en prendre de nouveau aux gendarmes, puisqu'il a tiré avec l'arme qu'il aurait manifestement pris à la policière municipale, et il a été neutralisé et cet auteur est décédé.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Marion Dubreuil, bonsoir.
Bonsoir.
Je me tourne vers vous. Vous faites partie du service police-justice d'Europe 1. Ce soir, le profil du suspect commence à se dessiner. Il s'agit d'un homme fragile psychologiquement et radicalisé.
Oui, c'était en prison que le suspect s'était radicalisé il y a 5 ans. L'administration pénitentiaire l'avait d'ailleurs placé à l'isolement après avoir constaté sa pratique très rigoriste de l'islam. C'est à ce titre qu'il figurait au fichier des personnes signalées pour radicalisation au bas du spectre, car même s'il avait un casier judiciaire chargé, vol à main armée, tentative d'évasion, dégradation, il n'avait jamais été condamné pour terrorisme. Il avait aussi un profil psychologique fragile, hein, diagnostiqué schizophrène avec des phases délirantes. Il venait tout juste de purger une peine de 8 ans de prison quand il est sorti le 22 mars dernier. Depuis, il respectait son suivi avec injonction de soins. Il avait vu à 3 reprises son conseiller d'insertion et de probation. Il avait présenté les justificatifs de ses consultations au centre médico-psychologique. Il était accompagné par une association et avait même retrouvé un emploi. On ne sait pas encore pourquoi il a décidé de s'en prendre à une policière municipale ce matin, même si le mode opératoire, une attaque au couteau, la cible, une policière, laisse penser à une attaque terroriste. Les investigations se poursuivent, mais le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi pour le moment.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. 3 ans de prison pour Jean-Noël Guérini, dont 18 mois ferme, 6 mois ferme également pour son frère Alexandre. Décision cet après-midi du tribunal correctionnel de Marseille. Le sénateur, ancien homme fort des Bouches-du-Rhône, et son frère, entrepreneur, ont été reconnus coupables dans une affaire de marché public truqué. La pandémie ne sera terminée qu'une fois que 70% de la population mondiale aura été vaccinée. C'est ce qu'affirme ce soir l'OMS, qui juge le rythme de la vaccination en Europe toujours trop lent.
Et pour l'heure, en France, 36% de la population est vaccinée. Un rythme qui pourrait toutefois encore accéléré, car ce soir, l'Agence européenne du médicament emboîte le pas à son homologue américaine et autorise la vaccination des enfants âgés de 12 à 15 ans avec le vaccin Pfizer, Anne Le Gall.
Voilà, ce vaccin Pfizer, déjà autorisé pour les 16-18 ans, devient donc le premier à être autorisé pour les plus de 12 ans en Europe. Les adolescents recevront 2 doses, comme les adultes. Les données cliniques ont confirmé que la réponse immunitaire dans cette tranche d'âge est équivalente, voire supérieure à celle des adultes pour prévenir les formes graves du Covid. Et le vaccin est bien toléré. Il n'y a pas d'inquiétude majeure concernant d'éventuels effets secondaires, a indiqué le responsable de la stratégie vaccinale de l'Agence européenne. Alors dans les faits, les adolescents sont moins touchés que les adultes par les formes graves du Covid, mais ils peuvent transmettre le virus. Leur vaccination permettra donc d'atteindre plus vite l'immunité collective. Le laboratoire Moderna a également annoncé qu'il déposera une demande d'autorisation pour les 12-17 ans début juin. Du côté du ministère de la Santé, on confirme que cette vaccination des adolescents est à l'étude, mais rien n'est encore décidé sur le calendrier dans l'attente de l'avis de la Haute Autorité de Santé qui sera rendue en milieu de semaine prochaine.
Anne Le Gall. Sur le front de l'épidémie, les chiffres s'améliorent de jour en jour. Résultat, les collégiens de 4e et de 3e vont pouvoir retourner normalement à l'école dès la semaine prochaine.
Ce matin sur Europe 1, Jean-Michel Blanquer a annoncé la fin des demi-jauges. Une quinzaine de départements sont concernés. Les lycéens, eux, devront encore patienter avant de trouver une scolarité normale.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1, on va vous parler du grand oral blanc qui s'est tenu aujourd'hui. La nouvelle épreuve phare du bac stresse les lycéens.
Et puis on reviendra également sur le divorce entre Nike et Neymar. C'est une accusation d'agression sexuelle à l'encontre du Brésilien qui est à l'origine de la rupture du contrat.
A tout de suite. 18h09, c'est la suite du journal de Sophie Tussaud. Et dans moins de 3 semaines déjà, c'est le début des épreuves du bac. Le 17 juin, les élèves de terminale plongeront sur la philo. Et grande nouveauté cette année, Sophie, dans les épreuves, le grand oral.
Le grand oral, c'est l'épreuve phare du bac cette année. Elle dure 20 minutes, avec 20 minutes de préparation. Le candidat doit présenter à un jury 2 questions qu'il aura préparées et qui portent sur ses 2 spécialités. C'est un stress énorme pour les lycéens.
Oui, pour les rassurer d'ailleurs, un oral blanc s'est tenu aujourd'hui dans l'Académie de Lille. ville. Maximilien Carlier s'est rendu au lycée Charlotte Perriand à Genet, où s'est déroulée aujourd'hui une répétition générale.
Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma question du grand oral. Donc.
Alban, 17 ans, en terminale, spécialité physique, SVT et maths, c'est son premier oral blanc.
Nous allons essayer de comprendre pourquoi l'acidification des océans a un impact sur les écosystèmes marins.
Une épreuve qui dure 20 minutes au total, 5 minutes de présentation devant un jury, deux enseignants.
Juste une petite remarque sur la forme, c'est très bien, hein. Registre de langue parfait. Hein,
le... Puis un échange pour approfondir le sujet et parler du projet d'orientation. Ce grand oral va compter pour 10% de la note globale du baccalauréat. Et il suscite un peu de stress chez les élèves.
C'est tout nouveau, quoi. On n'a pas forcément de recul sur la chose. L'écrit, on maîtrise beaucoup plus. On est là, on a nos connaissances, on gère, on a un plan, etc. Alors que là, c'est plus compliqué.
Plus compliqué forcément, car certains sont plus à l'aise à l'oral. Et puis la préparation a été perturbée avec la crise sanitaire. Mais pour Ludovic Cosior, professeur de sciences physiques, cette épreuve doit être pérennisée.
Le grand oral nous a permis de découvrir des élèves sous un nouvel angle, de nouvelles facettes. Certains dans la classe ont des difficultés en sciences physiques. Mais ça permettait d'aborder d'autres sujets, de les réintégrer au cours différemment, de les raccrocher.
Et conseil de dernière minute donné par cet enseignant pour ceux qui passent l'épreuve, restez naturel, soufflez et évitez de parler trop vite.
Maximilien Carlier à Genet pour Europe 1. L'épreuve du grand oral se tiendra du 21 juin au 2 juillet. C'est un peu comme à la radio d'ailleurs. TikTok dans le collimateur de Bruxelles. La Commission européenne lance une action contre le réseau social.
Oui, afin qu'il se conforme aux règles de protection des consommateurs européens. TikTok est accusé de recourir à des publicités déguisées et de cibler les enfants.
Et puis on vous le disait, Neymar fait parler de lui, mais pas pour des raisons sportives.
Son ancien sponsor Nike a dévoilé ce matin les raisons pour lesquelles il avait mis un terme à son partenariat avec la star brésilienne du PSG. C'est une suspicion d'agression sexuelle qui est à l'origine de la rupture, Jean-François Pérez.
Oui, les faits se seraient déroulés en 2016 et c'est le quotidien économique américain Wall Street Journal qui les a révélés. Neymar se trouvait à New York pour une opération de promotion avec Nike. C'est là, dans une chambre d'hôtel réservée pour l'occasion, qu'il aurait agressé une collaboratrice de la marque à la virgule, lui demandant un acte sexuel non consenti. Celle-ci a préféré garder le secret jusqu'en 2018, date à laquelle Nike a alors voulu ouvrir, je cite, « une enquête de bonne foi sur des allégations crédibles d'actes répréhensibles ». La star du PSG aurait alors refusé de témoigner et c'est ce manque de collaboration qui aurait poussé Nike à stopper son partenariat historique avec Neymar. Le père du joueur nie farouchement les faits, arguant que son fils ne connaissait même pas la jeune femme. Il reproche également à la marque américaine d'avoir pratiqué le même type de dénigrement avec des vedettes comme Cristiano Ronaldo ou Kobe Bryant qui avaient choisi de quitter Nike. Il y a deux ans, Neymar avait été accusé de viol par une jeune brésilienne, affaire classée sans suite. Le joueur s'est engagé depuis avec Puma pour plus de 20 millions d'euros annuels.
Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1.
Dans le journal de Sophie Tussaud que l'on retrouve à 18h30 pour le rappel des titres de l'info et à 19h bien sûr pour un nouveau journal. Mais tout de suite, c'est la météo.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
On vous retrouve Valérie Darmon et Valérie, demain, une fois n'est pas coutume, il fera plus beau au nord qu'au sud.
Et oui, effectivement, c'est dans ce sens-là que ça se passe, parce que le temps se dégrade sur le sud-ouest avec des averses qui peuvent se déclencher. Elles sont un peu plus fréquentes d'ailleurs l'après-midi, tournant même par endroits à l'orage. Du massif central à Rhône-Alpes, le temps est aussi bien nuageux, mais la menace d'averses ne concerne que le relief. Du Finistère au Morbihan, il peut aussi pleuvoir faiblement dans l'après-midi. Et sur toutes les autres régions, le temps est plus ou moins nuageux, tendance voilée. Et de toute façon, c'est la lumière ou la luminosité qui l'emporte. De toutes les manières, donc une impression de printemps enfin. D'autant que les températures poursuivent leur hausse. Elles aussi entre 5 et 11 degrés sur un grand quart nord-ouest le matin, entre 10 et 15 ailleurs. Et puis dans la journée, les maximales, elles vont atteindre 20 à 24 sur la moitié nord, 24 à 28 au sud, avec 21 à 24 sur les bords de la Méditerranée, du côté du Var par exemple, jusque sur les Alpes-Maritimes.
Oui, ça commencera vraiment à sentir l'été. Merci beaucoup Valérie Darmon, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et dans un instant, je reçois le président de Century 21 qui va nous parler du marché de l'immobilier qui flambe et qui atteint des records. À tout de suite. C'est l'heure de l'invité d'Europe Soir, il est 18h17 et je reçois ce soir le président de Century 21. Bonsoir Laurent Vimont.
Bonsoir Isabelle Millet.
Alors on aurait pu croire, Laurent Vimont, qu'avec la crise sanitaire, les confinements, le marché de l'immobilier allait souffrir. Eh bien, c'est le contraire. Hein. Votre secteur se porte bien, très bien même en ce qui concerne les logements anciens. On a les chiffres sur un an, c'est du jamais vu.
C'est un record historique. Il faut bien intégrer l'idée que le confinement a permis à beaucoup de Français de maturer tranquillement leur projet de logement, ce qui n'est pas toujours le cas. Ils ont eu du temps pour y réfléchir. Et puis l'autre élément, c'est que les taux bas ont porté le marché, puisque ces taux bas ont deux conséquences. La première, ils permettent à ceux qui pouvaient déjà acheter d'avoir un pouvoir d'achat plus élevé, parce que on peut plus s'emprunter. Et puis la deuxième, c'est qu'ils permettent à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers d'accéder au crédit. Je prends un exemple tout simple. Pour 500 euros de mensualité aujourd'hui, on peut emprunter 100 000 euros. Et avec 100 000 euros, on peut acheter des logements en France.
Des taux d'intérêt très bas, ça veut dire qu'on peut négocier combien actuellement ?
Aux alentours de 1%. C'est-à-dire que le record de vente correspond au record de taux bas. On n'avait jamais vu ça non plus.
Oui, donc ça favorise forcément la dynamique. Mais ces taux, ils vont forcément finir par monter.
Ah, ça, c'est le principe. Quand je ne le sais pas, pour l'instant, il reste bas. Il y a une théorie qui prétend que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'inflation, pas d'inflation, pas de hausse des taux. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de croissance en France. On va imaginer que l'inflation ne sera pas non plus au rendez-vous, donc que les taux resteront bas.
Est-ce que cet engouement vous a surpris, Laurent Vimont ?
Alors, moi, j'ai été de ceux qui ont dit pendant le confinement, je ne sais pas ce qui va se passer, il est trop tôt pour avoir un avis. Je découvre juste deux chiffres. Le premier, on a un taux d'acheteurs dans l'ancien investisseur de plus de 30%. On n'avait jamais vu, donc la pierre redevient une valeur refuge absolue. Et puis, le deuxième élément, c'est que on voit une forme de centrifugeuse entre les hypercentres et les villes dites de province, les chefs-lieux et sous-préfectures qui reviennent à la mode et qui attire à nouveau des clients. Il y a un phénomène de départ, c'est excessif, mais de migration légère des hypercentres, des grandes agglomérations vers les villes périphériques.
Alors oui, c'est vrai, il y a eu un engouement pour les régions. Quelles régions en particulier ont la cote ?
Il n'y en a pas. Vous prenez toutes les grandes métropoles de France et vous regardez 10 km autour et là le marché est très actif. Ce qu'on observe en fait, c'est que les Français veulent mieux vivre et pour mieux vivre, ils veulent mieux se loger. Et donc ils utilisent le prix de vente d'un logement en hypercentre élevé pour réinvestir ce prix dans un logement à 5 ou 10 km qui est plus grand ou qui a une maison ou qui a un morceau de jardin. Le confinement a généré des situations compliquées de gens qui avaient leurs enfants dans les pattes et qui ne pouvaient pas travailler correctement, qui étaient très très vraiment ennuyés par ça, qui ont envie de partir un petit peu. Encore une fois, il ne faut pas imaginer qu'on a un exode rural. Ce n'est pas vrai. C'est 5 km, 10 km, mais c'est mieux vivre et mieux se loger.
Mais ça veut dire qu'à l'inverse, les centres des grandes villes sont plutôt boudés en ce moment.
Alors boudé, c'est excessif. On va dire qu'on est passé de marché de frénésie à un marché de la raison. Paris Intramuros, qui avait un petit peu corrigé au premier trimestre, est en train de repartir à la hausse. Il faut rappeler qu'il n'y a pas d'étrangers aujourd'hui qui peuvent acheter en France, ils ne sont pas accessibles. Mais le marché parisien, il est passé de la frénésie à la raison. Et on va dire que là où avant les gens s'arrachaient un logement, aujourd'hui ils prennent du temps pour réfléchir. Mais on est encore sur un marché de pénurie dans les hypercentres. Donc avant de parler de décroissance, il va se passer un petit peu de temps à mon avis.
Quel est le profil de ces nouveaux acheteurs ? Ce sont plutôt des primo-accédants ?
Oui, vous avez plus de 40% de gens qui sont primo-accédants, de gens de moins de 30 ans qui ont accès au crédit et qui considèrent qu'il faut emprunter pendant qu'ils ont un emploi et que la banque leur prête de l'argent. Et qui partent du principe que emprunter de l'argent, c'est mettre un petit peu d'argent de côté de façon un peu contrainte et forcée. Et puis qui dans 5 ans ou 10 ans revendront ce logement pour acheter plus grand ou différent.
Parce qu'on dit que beaucoup de Français, pas tous hein, évidemment, ont mis de côté pendant la crise, assez pour se dire en tout cas que c'est le moment d'acheter.
Oui, alors c'est plus lié à l'emprunt, hein, l'acquisition immobilière en France. Certes, il faut un peu d'apport personnel. On va dire que le confinement a permis à ceux qui étaient peut-être un peu panier percé de mettre de l'argent de côté, de se faire un peu d'apport personnel et de pouvoir être éligible au crédit parce que il faut pas rêver. Aujourd'hui, on n'achète pas en France si on n'a pas d'apport personnel.
Ouais, l'OFCE estime que l'épargne Covid accumulée en 2020-2021 devrait représenter 160 milliards d'euros.
Oui,
et cette reprise du marché immobilier, elle coïncide pourtant avec une hausse des prix, hein. Nous le confirmer.
L'un va toujours avec l'autre. Si vous voulez, quand dans un marché d'offre et de demande, il y a plus de gens qui achètent que de gens qui veulent vendre, ça fait monter les prix. Et quand le marché est très dynamique, ça amplifie le phénomène. Donc aujourd'hui, sur toutes les régions, on voit les prix effectivement en hausse. Alors c'est très différent en fonction des régions. Hein. On est sur un marché en peau de léopard. Ça va de 2% à 6%, mais effectivement, c'est une tendance haussière.
Vous nous disiez que les urbains avaient choisi de s'installer plutôt en proche banlieue, on va dire, pour avoir une maison, c'est ça, plutôt qu'un appartement ?
Alors c'est ou une maison ou un appartement plus grand avec une pièce de plus. Le choix qui est fait, c'est ou bien je vends mes 100 mètres carrés, je vais dire 1 million d'euros à Paris, et puis avec ce 1 million d'euros, j'en rachète 130 ou 140 à 5 km, ou bien je passe à la maison avec un terrain. C'est l'un ou l'autre, mais dans tous les cas, c'est mieux se loger effectivement.
La question, c'est est-ce qu'ils ne vont pas le regretter quand le travail en présentiel va reprendre ? Parce que pour le télétravail, c'est formidable. C'est peut-être moins pratique quand on est loin de son lieu de travail.
Mais c'est un des arbitrages qui est fait. C'est jamais à 15 ou 20 km. C'est plutôt assez proche. Ce sont des sauts de puce qui sont effectués. C'est Paris, première couronne, seconde couronne. Il n'y a pas d'exode. Certains l'ont fait. Alors, sont partis, par exemple, à Chartres. Il faut effectivement accepter que dans un an ou deux ans, si le télétravail n'est plus la norme, bah, les temps de trajet vont être un petit peu longs.
Alors, est-ce que c'est encore le bon moment, là, aujourd'hui, pour acheter, Laurent Vimont ?
Je n'ai jamais su répondre à cette question. Parce que là, les taux sont extrêmement bas, mais les prix ont monté. Pour que les prix baissent, il faudrait que les taux remontent. On sait que la baisse des prix est terminée quand les prix ont commencé à remonter. Donc, c'est une équation compliquée. Le bon moment pour acheter, c'est qu'on a un projet, qu'on l'a mûri et qu'on a les moyens de le financer. Et quand on trouve la maison de ses rêves, eh ben, il faut plonger. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il y a le moment où vous avez mis en adéquation le projet, le budget et votre rêve.
Mais quand même des conseils pour nos auditeurs qui ont envie peut-être d'acheter, là, en vous écoutant. À quoi est-ce qu'il faut faire particulièrement attention, par exemple, quand on veut changer de vie, évoluer, quitter la ville pour la campagne? Il y a des choses sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant?
Oui, d'abord, il faut faire un bon plan de financement. Ensuite, ne pas imaginer que le week-end qu'on a passé, ça sera la semaine qu'on y passera, parce que quand on travaille et qu'il y a les frais des déplacements à faire, il faut imaginer que passer 2 heures en voiture, ça peut être extrêmement long. Donc, s'imposer pendant une semaine ou deux, faire des temps de déplacement pour voir ce qui se passe, et puis savoir que les enfants vont changer d'école. Enfin, il y a plein de contraintes, il n'y a pas que des bonnes choses. C'est pas non plus une punition, mais il faut prendre le temps d'étudier le secteur tranquillement et puis de mesurer les contraintes qui seront inhérentes à ce choix de vie qui sera à nouveau. Il y aura des choses positives et des choses négatives. Bah, quand l'équilibre est au rendez-vous, on peut y aller. Quand en revanche, vous avez des temps d'embouteillage qui sont trop longs, ce n'est pas forcément un bon calcul.
Oui, beaucoup de facteurs quand même à prendre en compte avant de se lancer. On a parlé de l'immobilier ancien. Ça donne quoi pour les logements neufs en ce moment ?
Alors, je suis pas un spécialiste. Je sais que 2020 sera une très mauvaise année parce que les permis de construire ont été gelés, parce qu'il y a les municipales, parce qu'il y a plein d'éléments et que malheureusement les chiffres sont pas au rendez-vous. Je crois que c'est une production en baisse de 18%. Donc le marché du neuf qui alimente l'ancien sera pas un bon cru en 2020.
Je me fais souvent la réflexion quand je marche à Paris, mais je suppose que c'est pareil dans d'autres grandes villes. Il y a des agences immobilières partout. C'est la preuve qu'en ce moment vous avez du travail.
Alors partout, c'est un peu excessif, il y en a beaucoup. Vous savez, il y a plus d'un million de ventes, donc il y a un chiffre record, ça a dû créer des vocations. On va le dire comme ça.
En ce moment, vous recrutez par exemple ?
Oui, on a environ 1000 postes à pourvoir dans le réseau pour 900 points de vente, des postes de commerciaux, de gestionnaires, d'assistantes, enfin un peu tous les métiers d'immobilier. On est un gros recruteur en général d'immobilier.
Et en particulier en ce moment, on imagine, avec cette hausse des ventes. Merci beaucoup. Merci Laurent Vimont, président de Century 21, d'avoir été notre invité en direct ce soir sur Europe 1. Merci à vous.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un tout petit instant, le rappel des titres de l'actualité avec Sophie Tussaud. Et puis ce sera vos grandes voix du vendredi. À tout de suite. Merci à vous d'écouter Europe 1, il est 18h30, l'heure du rappel des titres avec vous Sophie Tussaud.
L'homme qui attaquait une policière municipale au couteau près de Nantes était radicalisé, voulait s'en prendre aux gendarmes, annonce de Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place. Le suspect blessé lors de son interpellation est décédé. La policière blessée se trouve dans un état grave mais ses jours ne sont pas en danger. Le feu vert de l'Agence européenne du médicament, elle autorise la vaccination des 12-15 ans contre le Covid avec le vaccin élaboré par Pfizer-BioNTech. Fini les demi-jours au lycée pour les élèves de 4e et de 3e. Jean-Michel Blanquer l'a annoncé ce matin sur Europe 1. Les cours reprendront normalement dès la semaine prochaine en raison de l'amélioration de la situation sanitaire. Emmanuel Macron se prononce finalement pour une suspension temporaire des brevets des vaccins anti-Covid, et ce afin de permettre un transfert de technologie dans les pays pauvres. Annonce du président lors d'un entretien avec son homologue sud-africain à Pretoria. 3 ans de prison dont 18 mois ferme pour Jean-Noël Guérini, 6 mois ferme également pour le frère du sénateur des Bouches-du-Rhône, Alexandre, avec un mandat de dépôt. Décision du tribunal correctionnel de Marseille dans une affaire de marché public truqué. La France vend 12 rafales d'occasion à la Croatie, montant estimé du contrat à 9 milliards d'euros. Florence Parly, la ministre des Armées, salue le renforcement des liens stratégiques entre Paris et Zagreb. Et puis un nouvel entraîneur pour Strasbourg en Ligue 1, Julien Stéphane, qui était à Rennes, s'occupera du club alsacien durant les 3 prochaines saisons.
Merci beaucoup Sophie Tussaud. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet. Valérie Darmon, pour demain, vous prévoyez un dégradé de bleu sur la France, les couleurs d'Europe 1, quoi.
Effectivement, c'est un peu fait exprès. Hein. Bleu teinté de gris pâle tout de même sur l'ouest de la Bretagne et le Cotentin, car les nuages y sont plus épais et susceptibles de s'accompagner d'une ondée. Des pays de la Loire et du centre Val-de-Loire au bassin parisien, bleu profond, tacheté de blanc à cause de vagues nuages d'altitude, dont conditions météo très agréables avec du soleil. Du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté, de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, à Auvergne, à Rhône-Alpes, belles éclaircies. On a tout de même quelques averses qui circulent au sud de la Garonne et les nuages qui bourgeonnent sur les reliefs des Pyrénées, des Cévennes et du sud des Alpes, donnant quelques coups de tonnerre sur le sud-ouest et les températures qui sont de saison enfin en ce dernier week-end de mai.
Merci beaucoup Valérie Darmon, merci à vous. On se retrouve à 19h pour un nouveau point météo complet.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Il est 18h31 et on ouvre ce soir le débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés Nathalie Segaun, journaliste politique à l'Opinion, Elsa Fressenet, grand reporter aux Échos et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur du site d'Info Atlantico. Bonsoir et merci à tous les trois de m'accompagner ce soir.
Bonsoir.
Alors je voudrais qu'on revienne sur cette nouvelle attaque visant une policière municipale grièvement blessée à coups de couteau ce matin en Loire-Atlantique à la Chapelle-sur-Erdre. Le suspect a été tué mais lors de son interpellation, il l'a blessé. Blessé de gendarmes. Il avait apparemment dérobé l'arme de service de la policière. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place.
Et les forces de l'ordre représentent notre nation, la force légitime, et on le voit bien, sont la cible et sont la cible d'ultra-violence. Les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux. Nous devons chacun dans l'arc républicain leur apporter tout notre soutien.
Mais Jean-Sébastien Ferjou, vous trouvez que Gérald Darmanin, il a eu les mots justes après ce drame? C'était important, hein, vu le contexte actuel.
Bien sûr que c'est important d'exprimer son soutien à la police, puisque quelles que soient les intentions de l'homme, du tueur, puisqu'il semble qu'il ait été sérieusement déséquilibré, ça n'empêche pas que ça a une résonance pour l'ensemble des policiers français, comme pour l'ensemble des Français. Donc oui, le ministre de l'Intérieur, évidemment, a raison de rappeler que ces faits-là ne sont pas tolérables et qu'il est derrière les policiers, puisque certains débats politiques, alors ça ne veut pas dire qu'il y ait de lien entre ce cas-là. C'est ça qui est toujours compliqué sur des cas particuliers, c'est qu'il y a une réalité politique, un climat politique qui existe dans le pays, et puis après, il y a des faits particuliers, et là, il est peut-être un peu tôt pour se prononcer sur la nature exacte de celui-ci. Sauf que le ministre, il ne peut pas faire la distinction entre les deux, parce qu'il est bien obligé de répondre à nous tous.
Oui, c'est vrai que pour l'instant, on ne parle pas nommément d'actes terroristes, mais quand même, le profil de l'individu en question, il se précise. Hein. C'est un homme qui serait sorti de prison fin mars, après avoir purgé une peine de plusieurs années pour des faits de droit commun. Et ce que l'on sait aussi, c'est qu'il souffrait de troubles psychiatriques, diagnostiqué comme schizophrène, sévère, que sa radicalisation avait été détectée en prison. On avait remarqué sa pratique rigoriste de l'islam. Il était même, à ce titre, inscrit au fichier des personnes radicalisé. Forcément, tout ça, ça interpelle, hein, Nathalie Segaun.
Oui, bah, c'est ce que les policiers appellent, je crois, un cas hybride, c'est-à-dire à la fois de radicalisation assez récente, finalement, et en prison, manifestement, puisqu'il a fait de la prison, et de troubles, enfin, de maladies psychiatriques très lourdes. Et surtout, alors, ce qui est frappant, c'est que ça arrive quand même, après un mois, après le 5 mai et l'assassinat d'Éric Masson à Avignon, après le 23 avril et l'égorgement d'une agente administrative à Rambouillet.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas un fait divers, c'est une série de drames qui touchent à chaque fois la police, les autorités policières dans leur ensemble, et donc qui alourdit énormément le climat. Alors ça peut relever de ce que Gilles Kepel appelle du djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire qu'on a des cas psychiatriques lourds qui, finalement, entendent parler d'une agression au couteau quelque part et sont tentés d'imiter et à leur tour de passer à l'acte. Ça, peut-être que je m'avance peut-être un peu, mais ça relève peut-être un peu de ça. Il n'y a pas forcément une revendication terroriste derrière très affirmée. Mais, pour la police, c'est encore un nouveau drame. Et étant donné le contexte qu'on a connu, la manifestation des policiers récemment, leur demande permanente, récurrente de sanctions plus fortes à l'égard des auteurs d'agressions contre les autorités, contre la police, ça va encore rajouter une pierre, ça va encore poser le problème de la sécurité au premier plan. Et plus on avance vers la présidentielle, et plus ce sujet va peser lourdement, à mon avis.
Bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça, Elsa Fresnay? On peut parler de djihadisme d'atmosphère?
Alors, j'éviterai de conclure tout de suite, mais c'est vrai que la période est tout à fait marquée par... Il y a tout un tas d'agressions, et notamment contre les policiers, où on ne sait pas, au fond, si cela relève du terrorisme ou de la psychiatrie.
Oui. Et pour l'instant, il a jamais été condamné, en tout cas pour terrorisme.
Mais ou des deux, ça ne s'exclut pas nécessairement, d'ailleurs.
Oui. Voilà, c'est-à-dire que le terrorisme peut être l'islamisme peut être un prétexte et un débouché à un désordre psychiatrique. Mais dans ces cas-là, c'est toute la difficulté pour les politiques d'apporter une réponse. C'est-à-dire que je rebondis sur ce que disait Nathalie, sur les revendications des policiers, et notamment des peines minimales en cas d'agression, etc. Quand vous avez en face de vous soit un terroriste, soit quelqu'un qui est atteint de troubles psychiatriques, soit les deux, en l'occurrence, la peine minimale, il s'en moque. Et là, dans l'agression d'aujourd'hui, d'ailleurs, l'auteur de l'agression a été tué lors d'un échange de coups de feu avec les gendarmes. Oui. Donc, c'est toute la difficulté, là, cette fois-ci, si on se place sur le plan politique, d'avoir un milieu des policiers à cran, sensibles, des relations entre la population et les policiers sur divers plans qui deviennent très compliqués. Et quelle réponse politique y apporter quand on est au gouvernement? Parce qu'évidemment, là, les oppositions ne se privent pas de faire la surenchère, etc. etc. mais
évidemment.
Il y a deux manières de regarder le sujet, d'ailleurs, du point de vue de la réponse politique. En fonction de ce qu'on apprendra réellement de l'attaque d'aujourd'hui à la Chapelle-sur-Indre, c'est-à-dire que soit il y a eu des dysfonctionnements, on sait, c'est donc un homme qui a fait de la prison et qui était signalé, connu, suivi par la police pour radicalisation, et par ailleurs identifié comme lourdement schizophrène. Donc, y a-t-il eu défaillance dans le suivi qui pesait sur lui? Éric Dupond-Moretti dit que non. Il était bien suivi par un magistrat, il respectait son suivi judiciaire, et par ailleurs, il était également suivi par un médecin. Donc après, l'enquête nous dira si effectivement il y a eu un trou dans la raquette ou non, mais en l'état, il ne semblerait pas.
Il n'y avait pas eu de remise de peine, apparemment.
Non, mais exactement, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Justice.
Il a été très
aujourd'hui,
ferme,
pour éviter justement que le débat dérape sur une forme de laxisme supposé de l'État face à ces situations-là. Et après, il y a un autre niveau de réponse politique, c'est-à-dire que le terrorisme... Moi, j'aime pas beaucoup l'expression, mais je sais que c'est Gilles Kepel qui l'a forgé, mais elle résonne étrangement de djihadisme d'atmosphère, mais en tout cas, de gens dont les motivations sont peut-être plus récentes ou plus superficielles, ça n'empêche pas que là, on peut se poser la question de la responsabilité de discours politiques qui entretiennent l'idée que les forces de l'ordre ou l'État sont porteurs d'un racisme ou d'une haine anti-musulman contre laquelle il faudrait réagir. Parce que ces gens-là ne peuvent pas ignorer que c'est quand même entendu par une partie de la population et que ça ne se résume pas à des débats universitaires, mais que ça a un impact dans la rue.
Et on va y revenir dans un tout petit instant. Restez avec nous, c'est la suite de votre débat des grandes voix dans un instant. 18h48 de votre débat des grandes voix sur Europe 1, toujours avec Elsa Fresnay, grand reporter aux Échos, Nathalie Segaune, journaliste politique à l'Opinion, et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur du site d'Info Atlantico. On parle de cette nouvelle attaque dont a été victime aujourd'hui une policière municipale près de Nantes à la Chapelle-sur-Erdre. Elle a été blessée, mais ses joues ne sont pas en danger. Son agresseur a été tué lors de son interpellation. Il a également blessé deux gendarmes. Beaucoup d'émotions, évidemment, après ce nouveau drame. Une attaque qui intervient en plein Beauvau de la sécurité, alors que les relations entre la justice et la police, on le sait, sont déjà très tendues. Les policiers en veulent à la justice qui ne serait pas à la hauteur, selon eux, notamment en ce qui concerne les auteurs d'agressions contre les personnes dépositaires de l'autorité publique. En fait, ce drame, il ne pouvait pas tomber au pire moment, Nathalie Segaune.
Oui, les relations sont très tendues entre, effectivement... les policiers, les syndicats de police et le ministère de la Justice, le ministre de la Justice Dupond-Moretti, qui est présenté comme, enfin qui incarne à leurs yeux le laxisme, un certain laxisme. Or, le taux de réponse pénale en cas d'agression contre les forces de police est de 96%, c'est-à-dire que il est de 13 points supérieur à la réponse pénale pour l'ensemble des violences. Et dans 75% des cas, ce sont des peines de prison qui sont prononcées à l'égard des auteurs. Donc, on a l'impression quand même il y a une exigence, enfin, il y a une surenchère au fur et à mesure des drames de la part des syndicats et de la police qui est sans fin, mais qui tient pas compte d'une réalité. C'est-à-dire qu'ils sont déjà sanctionnés. Les auteurs de violences contre les policiers sont déjà lourdement condamnés.
Vous êtes d'accord avec ça, Elsa Fresnay ?
Ben oui, en fait. Et surtout, là,
bien de votre micro, on vous entendra mieux. Voilà.
Ça, effectivement, ça tombe au pire moment. Mais il ne faut pas tout mélanger non plus. C'est-à-dire que, quel que soit le... Enfin, prévenir des actes de terrorisme ou des actes de psychiatrie, ça relève du renseignement, comme je le disais. Ce n'est pas la force de la réponse pénale qui dissuadera un djihadiste ou un fou d'agresser un policier. Donc, on peut pas s'appuyer sur ces cas-là pour demander une meilleure réponse pénale, me semble-t-il. Ensuite, quand les policiers mettent en cause la justice, les statistiques produites par Nathalie sont éclairantes et il me semble, au contraire, que on a un vrai sujet dans ce pays et évidemment, ni les juges ni les policiers ne sont les premiers responsables. C'est le divorce entre les deux institutions depuis 20 ans. Et là, quand même, il faut bien avouer que les politiques, un certain nombre de politiques, et Nicolas Sarkozy avait commencé, ont joué les apprentis sorciers en opposant les deux institutions.
Ils ont mis de l'huile sur le feu, c'est ça que vous dites ?
Oui.
Ah oui,
oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Mais le sujet n'est pas d'en parler. Le sujet n'est pas d'en parler. Parce qu'effectivement, en parler sans agir... Enfin, sur l'opposition entre justice, le sujet, c'est de constater qu'il y a objectivement des dysfonctionnements, que la sociologie des magistrats, elle est quand même ce qu'elle est, même si, oui, Nathalie Sogon nous disait, les attaquants de policiers, ils sont condamnés, sauf qu'encore faut-il qu'ils soient déférés devant la justice. Et les policiers, justement, ils vivent ça aussi. C'est-à-dire que vous voyez, à chaque fois qu'il y a des émeutes urbaines, en général, la phrase qui suit, c'est « aucune interpellation n'a été possible ». Pour autant, les policiers, ils ont eu l'impression d'avoir été agressés. Le jour en question, dans un certain nombre de cas, quand il y a des refus d'obtempérer, les parquets ne poursuivent pas, y compris... Alors, heureusement, ça ne se traduit pas toujours par des drames, hein, mais rien qu'un refus d'obtempérer, même si la personne est identifiée, souvent les parquets classent sans suite. Donc il y a quand même un sujet. Mais là où il y a peut-être une responsabilité politique, c'est pas tant sur le fait d'évoquer des dysfonctionnements de la justice ou des dysfonctionnements de la police, c'est de ne faire que les évoquer et de ne pas en avoir tiré de conclusion, notamment sur la question des moyens de la justice. Parce qu'une des explications, elle est bien souvent liée au fait que les magistrats, tout simplement, n'ont pas les moyens de traiter les dossiers qui leur sont présentés.
Oui, puisque vous nous dites, c'est que les chiffres de Nathalie Sogon, effectivement, ne reflètent pas forcément le ressenti des policiers sur le terrain.
Ben, c'est-à-dire que ça reflète, s'il y a une poursuite... Oui, si des poursuites sont engagées et que vous avez attaqué un policier, oui, vraisemblablement, vous allez être condamné et condamné de manière plutôt sévère. En revanche, la réalité du vécu des policiers, c'est que dans un certain nombre de cas, ils ont l'impression d'être victimes, enfin l'impression où ils sont victimes d'agressions, sans que pour autant ça donne lieu à des procédures judiciaires, puisque les personnes n'ont pas été interpellées. Mais c'est là où les policiers, oui, d'ailleurs, peut-être sont parfois dans une confusion sur leurs revendications, parce que ça, c'est autre chose. Ça, c'est une question d'ordre public général, et c'est pas forcément, à moins qu'ils considèrent que le fait que les peines encourues soient toujours plus lourdes suffisent à éviter la violence. Mais ça, je pense que c'est pour le terrorisme, c'est pas certain.
Peut-être un mot de politique, parce qu'on est quand même juste avant le scrutin des régionales, et cette attaque, cet enjeu sécuritaire, il pourrait bousculer le scrutin. Évidemment, Marine Le Pen s'est engouffrée dans la brèche. David Lisnard, aussi le maire de Cannes, qui a écrit les faits sont plus forts que les mises en scène de l'autorité. Éric Ciotti aussi, qui est monté au créneau. Il fallait s'y attendre.
Ouais, c'est vrai que Marine Le Pen s'enracine fortement parmi les forces de l'ordre. On a publié dans l'Opinion récemment une étude du CEVIPOF de Luc Rouban qui montre qu'aujourd'hui, 60% des policiers disent voteraient pour Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Ils étaient 57% en 2017. Ce n'est pas une progression phénoménale, mais enfin, elle s'enracine, elle s'installe. Le pouvoir semble, lui, honnêtement, tétanisé face à cette question. Alors, à mon avis, depuis la crise des Gilets jaunes, parce que... il a vu, je parle du président de la République et du pouvoir en général, mais surtout du président de la République, que son... Il y a eu un moment dans l'histoire de ce pays, moment de la crise des Gilets jaunes, où le pouvoir n'a tenu que grâce à la police, que grâce à ses forces de police. Depuis, on...
Ce que vous nous dites, c'est qu'il est un peu impuissant.
Il est impuissant et il semble tenu, en tout cas tétanisé à l'égard des forces de police. C'est-à-dire que... Chaque surenchère amène une nouvelle loi, une nouvelle réponse législative qui tombe à côté en général parce que ce ne sont pas les lois qui règlent les problèmes auxquels sont confrontés les policiers aujourd'hui. Et donc on est à mon avis dans une spirale assez délétère pour ce pouvoir-là, oui, à l'approche de la présidentielle.
On va se retrouver dans un instant, les grandes voix. On va poursuivre notre débat, on va parler d'un autre sujet, on va parler de cette vaccination des ados à la veille de l'été. À tout de suite. 18h50, suite de votre grand débat des grandes voix sur Europe 1. Elsa Fraissené est à mes côtés, grand reporter aux Échos, Nathalie Segaune, journaliste politique à l'Opinion, et Jean-Sébastien Ferjou, fondateur du site d'info Atlantico. Alors qu'attend-on pour ouvrir la vaccination aux ados? Elle est jusqu'à présent autorisée seulement pour les plus de 16 ans, dans certaines conditions, s'ils ont des facteurs de risque, mais l'Agence européenne du médicament vient de se prononcer là, cet après-midi, en faveur de l'autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech pour les 12-15 ans. Pfizer qui devient donc le premier sérum à obtenir ce feu vert. Bonne nouvelle, j'imagine, pour vous aussi, les grandes voix. Nathalie Segaune.
Oui, sans doute.
Je vous ai pris de court, là.
Pour moi, personnellement, je n'en sais rien.
Non, vous trouvez ça une bonne nouvelle que les ados puissent être
vaccinés? Si on a les doses, oui. Mais
tout dépend. Il faut qu'on ait les doses. Mais tout dépend aussi de l'objectif qu'on se fixe. C'est-à-dire que si c'est l'objectif est d'atteindre une immunité collective, évidemment qu'il faut qu'ils soient vaccinés comme les autres. Ils sont porteurs du virus, ils le transmettent, il n'y a aucune raison, même s'ils n'en souffrent pas, il faut que les adolescents soient vaccinés. Après, si l'objectif c'est de, et ça a quand même souvent été le choix fait par ce gouvernement depuis le début de la pandémie, si l'objectif c'est de faire baisser le nombre de personnes en réanimation dans les hôpitaux, donc la pression sur les hôpitaux, il faut plutôt continuer, à mon avis, à vacciner en priorité les personnes à risque, en fonction soit de leur âge, soit de leur état de santé.
L'un n'empêche pas l'autre. Hein, le gouvernement dit qu'il continue à prendre effectivement en priorité les personnes à risque et les personnes plus âgées.
On n'a pas les doses pour, à mon avis, manifestement, on ne les a pas pour vacciner tout le monde tout de suite.
Oui.
Et donc, vacciner des jeunes aujourd'hui, des adolescents, ça retarde la vaccination.
Oui. Alors là, on a juste eu le feu vert de l'Agence européenne. Il va encore falloir que la Haute Autorité française se prononce. Ça peut prendre encore un peu de temps, mais c'est un bon début quand même, Elsa Fraissené.
C'est une bonne nouvelle parce que ça ouvre une possibilité. Ça dit que le vaccin Pfizer est efficace pour les adolescents. Après, effectivement, tout dépend du nombre de doses. Et c'est très intéressant de regarder ce qui s'est passé en Allemagne récemment. C'est que le ministre de la Santé voulait ouvrir une vaccination spécifique pour les adolescents, là, courant juin. Il y a eu des heures de discussion. Entre Angela Merkel et les chefs des Länder. Et il n'y avait pas assez de doses. Donc oui, il va y avoir une ouverture à la vaccination pour les adolescents en Allemagne, mais pas de campagne spécifique. Et à Berlin, en ce moment, les médecins sont pris d'assaut. Donc pour le moment, ça met plus de désordre que ça ne crée d'espoir. Et Angela Merkel elle-même a dit qu'on ne pourrait pas vacciner tous les adolescents avant l'été, comme le voulait le ministre de la Santé. Chez nous, il y a quand même eu... La campagne de vaccination a quand même commencé dans le désordre, on va dire. Où là, on finit par avoir finalement une bonne accélération, un bon rythme de croisière, et quand même 60% des plus de 75 ans vaccinés. Peut-être, je ne suis pas sûre que ça contribuerait à l'ordre que d'ouvrir encore à de nouveaux publics.
Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont demandeurs, les jeunes, hein, parce qu'ils ont bien compris que s'ils ne sont pas vaccinés, il y aura des activités qui leur seront interdites cet été, Jean-Sébastien Ferjou.
Pas nécessairement, parce qu'en été, c'est quand même beaucoup en extérieur.
Ils veulent aller à des concerts, etc.
Et vraisemblablement, il va y avoir quand même le pass sanitaire. Mais le pass sanitaire, ce n'est pas seulement parce que vous avez été vacciné, c'est quand même aussi si vous avez un test PCR récent. Donc c'est quand même important de le rappeler, parce que ça ne crée pas une espèce de frontière absolue ou un gouffre infranchissable entre ceux qui auraient eu la chance ou l'occasion de pouvoir être vaccinés et les autres. Mais après, je suis d'accord avec ce que disaient Nathalie Segaune et Elsa Fraissené. Enfin, pour le coup, ce n'est pas forcément l'urgence du moment. Parce que d'un, il y a la question de l'approvisionnement, et de deux, il est quand même logique de vacciner en priorité ceux qui font les formes les plus graves. L'OMS continue à dire de suivre plutôt l'ordre de vaccination qui a été fixé en l'état. Moi, ce qui me frappe en revanche dans ces débats-là, mais après, ce n'est pas le gouvernement qui l'a ouvert, parce que vous le disiez, c'est l'Agence européenne qui autorisait, disons, qui disait « ça n'est pas dangereux pour les adolescents », enfin à minima pour certains vaccins, c'est qu'on ne se préoccupe toujours pas, en ce qui concerne les adolescents, de mesures concrètes qui pourraient leur simplifier la vie, comme les aérateurs dans les écoles, les purificateurs, ou même les tests salivaires, parce que ça, le gouvernement a énormément misé sur la vaccination, et effectivement, après des débuts un peu chaotiques, on est à peu près en ordre de marche, en tout cas à hauteur de ce qu'on a comme dose.
Il y en a quand même des tests salivaires qui ont été distribués dans les établissements scolaires.
Oui, mais enfin, sérieusement, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de lycéens ou de collégiens. Posez la question autour de vous, vous verrez. En tout cas, alors bien sûr, on ne peut pas apprendre les choses qu'à hauteur empirique, mais c'est quand même souvent un bon indicateur. Mais je n'en connais aucun. Aucun à tous ceux à qui j'ai posé la question. Et de toute façon, même quand on pose la question à des chefs d'établissement, etc., on voit qu'entre les objectifs et la réalité, il y a quand même un grand pas. Donc je trouve dommage qu'on ait tout misé sur la vaccination. C'est très bien de miser sur la vaccination. Mais dans l'intervalle, et à minima, parce qu'on n'est pas, on peut pas exclure l'arrivée d'un variant qui serait plus contagieux ou autre, c'est dommage qu'on ne se mette pas en situation de prendre des mesures qui peuvent quand même aider à réduire la circulation du virus.
Très bien.
Et y compris justement pour les adolescents et dans le cadre où les adolescents, enfin là où se trouvent les adolescents.
Très bien. Mais écoutez, merci à vous, les grandes voix du vendredi, pour ce débat. Dans un instant, on va retrouver toute l'info avec le journal de 19h de Sophie Tussaud. À tout de suite.